sommes entre Loire et Loing, c'est l'heure du magazine du Gâtinais sur C2L, comme chaque samedi à 10h à la radio, et c'est aussi en vidéo, sur les réseaux, et notamment sur notre page Facebook, entre Loire et Loing. Merci de nous écouter, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, ce Z, bonjour à toutes et à tous, c'est ce qu'on appelle un velours et non un cuir ou un pataquès. C'est une histoire de liaison, de mauvaise liaison. Cherchez sur les internets ce qu'est un velours. Alors j'avais proposé à Sandrine Manteau d'en faire la signature sonore de l'émission, de dire commencer systématiquement chaque émission par bonjour à toutes et à tous. Bon, elle veut pas le faire, mais moi si. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, nous rencontrerons Jeff, un créateur de l'association Hercule Haïti, une association humanitaire au profit de laquelle une séance du film Freda est organisée au cinéma Vox ce soir à Château-Renard. Nous rencontrerons également Régine à la médiathèque de l'âme qui nous parlera des prochains rendez-vous de la médiathèque où il se passe toujours quelque chose. Nous ferons plus ample connaissance avec Christophe Villain, dont vous avez pu entendre les chroniques il y a quelques années sur C2L, avec qui nous parlerons de sa grande passion, la BD. Et enfin, nous évoquerons l'histoire du mythique Golfe Drouot avec Christian Georges, car c'est un lieu qu'il a très bien connu et qu'il raconte dans un livre « Un petit chez les grands ». À tout de suite.
Yeah. C2L.
Nous sommes entre Loire et Loin sur C2L, merci de nous écouter. Il se passe toujours quelque chose à la médiathèque de l'âme. Pas plus tard que cette semaine, par exemple, vous avez peut-être, comme nous, assisté à la projection d'un documentaire sur Hugo Pratt et de son personnage, Corto Maltese, suivi d'une discussion avec des spécialistes de la BD. Voilà, des conférences, des projections, des expositions, des ateliers, des animations, des concerts, des rencontres avec des écrivains. Presque chaque semaine, l'âme, la médiathèque de l'âme, vous donne un rendez-vous comme ça, où je vous incite à aller voir sur les réseaux, sur Internet, etc., tout ce qui peut se passer là-bas. Et nous avons rencontré Régine Litaize, l'une des animatrices, qui nous en dit quelques mots au micro de Sandrine Manteau, bien sûr.
Amis d'entre Loire et Loin, alors nous voilà au sein de la médiathèque de l'âme à Montargis, et je suis en compagnie de Régine Litaize, qui est la responsable de l'espace adulte, c'est ça ?
C'est ça.
Et on a vraiment eu envie, avec Pascal Weber, de venir ici parce que il y a énormément d'actualités, une programmation riche en novembre-décembre, et on sort aussi d'une programmation alors très fournie, sans doute à l'occasion des vacances et d'Halloween.
Tout à fait. Beaucoup de choses ont été proposées autour de la couleur. Autour de la couleur notamment et de l'univers d'Harry Potter pendant toutes les vacances scolaires et qui ont amené vraiment beaucoup de public à la médiathèque.
Voilà, et vous êtes encore en train de potorer, Régine, en bas.
Exactement, je sors d'une animation ce matin pour faire deviner les personnages d'Harry Potter. C'était vraiment très sympa.
Et il y avait beaucoup de monde en fait dans cette petite salle très, très mignonne avec plein de couleurs.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que ce sont des couleurs qui identifient bien la médiathèque de l'âme. Et nous avions du public de tout âge, des enfants de 7 ans avec des adultes. Et c'est toujours très agréable.
Alors voilà. Donc, dans un premier temps, Régine, vous nous disiez qu'il était bon quand même de parler avec vous du mois du film documentaire proposé par l'Agoram, parce que vous trouvez que ça a un petit peu du mal à se mettre en place.
C'est-à-dire que le film documentaire, il est bien d'en parler pour faire venir le public vers une programmation qui est toujours très intéressante et qui permet de montrer des films avec des réalisateurs très, très, très intéressants. Et nous avons la chance d'avoir souvent des intervenants qui viennent ensuite débattre avec le public du film qui a été regardé.
Voilà, alors là, on a 9 propositions différentes, 9 rendez-vous à travers donc le Montargois. N'hésitez pas, vous retrouvez en fait le document, soit évidemment sur le net, soit en vous déplaçant dans les différentes médiathèques. Alors, on va parler maintenant plus précisément de ce qui se passe ici. On commence le mois du documentaire par Hugo Pratt, trait pour trait. On vous laisse retrouver notre petit blabla sur Entre Loire et Loin. Alors, on continue, on tourne la page. Il faut tourner la page. Ah, exposition photo de presse.
Voilà, nous recevons également un journaliste. Photojournaliste qui s'appelle Corentin Follin et nous accueillons une exposition de ses photos du 16 novembre au 4 décembre et lui-même sera présent samedi 20 novembre et pour une rencontre avec le public autour de son travail et de ses photographies.
Voilà, toujours l'intérêt évidemment de rencontrer des réalisateurs, des photographes, enfin voilà, comme vous disiez, des intervenants, de l'humain.
C'est ça, de l'humain, nous, c'est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup à la médiathèque. Et comme vous le voyez depuis tout à l'heure, depuis qu'on discute, dans des univers complètement différents, très variés.
D'accord.
Et pour les publics les plus variés.
Alors, est-ce qu'on continue encore ? Est-ce qu'on tourne encore la page ? Alors, on va arriver doucement vers décembre.
Oui. Et alors là, je vais vous parler d'un événement, puisque je pense qu'on peut l'appeler comme ça, qui n'est pas dans notre plaquette, qui n'était pas prévu et qu'on a la chance de pouvoir vous proposer le samedi 4 décembre. nous avons la chance de recevoir Éric-Emmanuel Schmitt ici à la médiathèque de Montargis.
Vous avez un grand sourire, Régine.
Oui, parce que j'en suis ravie, mes collègues également. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup communiqué sur le sujet, mais les gens commencent déjà à être au courant et à venir nous poser des questions.
Alors, ça sera à 16h, ça sera évidemment aussi dans la salle du Tivoli.
Non, ce sera dans l'atrium.
Wow.
Voilà, dans l'atrium, parce qu'on aime bien aussi, quand on le peut, proposer des événements dans la médiathèque quand elle est ouverte au public. Parce que ça montre que dans la médiathèque, il se passe plein de choses et des choses très différentes. Alors oui, on vient emprunter des documents, on vient lire sur place, mais aussi on peut rencontrer des gens un peu inattendus chez nous. Et voilà, on est vraiment très, très heureux.
Merci de ce moment inopiné pour vous. Ce n'était pas prévu.
Ce n'était pas prévu, mais voilà, j'en suis ravie. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous revenez quand vous voulez.
Shaking like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bag that's hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye.
C2L Radio.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin sur C2L. Nous parlions il y a un instant de ce qui se passe à la médiathèque de l'âme. Et parmi ceux qui sont derrière tout ça, il y a notamment un passionné de plein de choses, et de BD en particulier. Nous avons voulu en savoir plus à son sujet. Nous l'avons donc invité à parler un peu de lui. Voici Christophe Villain, entre Loire et Loin.
Alors aujourd'hui, on est en compagnie d'un monsieur, mais qui devrait être beaucoup plus vieux qu'il n'est quand il nous fait son pédigré, mais c'est incroyable. Alors nous, on le connaît à Montargis pour être le monsieur bande dessinée. C'est lui à qui on fait appel quand on veut créer un événement BD sur l'agglo.
Voilà, tout à fait.
Ça
bonjour
marche.
Sandrine.
Voilà, bonjour Christophe Villain. Christophe Villain, alors je lui dis Christophe Villain en deux mots. Alors il nous sort un truc long comme l'encyclopédie Universalis. Il est journaliste. Il va nous dire pour quel magazine, c'est assez impressionnant. Allez, j'en lâche un, Beaux-Arts, par exemple, Beaux-Arts Magazine. Il est critique. Il est commissaire d'expo, il est enseignant BD à l'IUT Bobigny. Et puis le reste du temps, il lui reste
un peu de temps quand même. Il est prof au Grand Clos. Voilà.
Ça voilà, c'est ça. Ouais, c'est très bien.
Hein, c'est bien. Alors, il y a de l'actu avec Christophe Villain, puisque il y a quelque temps, on vient de sortir en fait d'une belle exposition à la médiathèque de Montargis sur Margerin. Mercredi dernier, on est allé voir tous ensemble le documentaire sur Hugo Pratt qui est passé au Tivoli. Il s'en est suivi une discussion autour de l'œuvre d'Hugo Pratt, donc de Corto Maltese. Et puis enfin, l'actualité un petit peu plus... Bon, non, dans quelques jours.
Non, ça va venir vite.
Ça va venir
vite. Ça va venir vite.
C'est samedi 20 novembre à Blois, au festival BD Boom. Christophe, qu'est-ce que tu vas proposer à ce festival ?
Alors, au festival BD Boom, j'anime une rencontre avec José-Louis et Catel. Alors, José-Louis et Catel sont connus pour toutes leurs monographies de femmes inspirantes. Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse, Joséphine Béguer. Et puis, le dernier sorti, première femme réalisatrice, Alice Guy.
Très bien. Alors ça, c'est voilà. On disait quand même que à l'heure actuelle, parler des femmes oubliées, c'est bien d'ailleurs comme sujet parce qu'il y a la dose quoi de femmes oubliées.
Super sujet. C'est d'ailleurs l'objet d'une collection chez Casterman qui s'appelle Les clandestines de l'histoire.
Bon, c'est bien. Comment t'es tombé là-dedans ? Comment t'es devenu le grand spécialiste de la BD ?
Grand spécialiste, amoureux de la bande dessinée, passionné, mais oui. Non, j'y suis tombé petit, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un père qui travaillait à la télévision et qui m'a fait assister aux émissions de Récréa 2, par exemple, avec Cabu. Et c'est les premières fois où j'ai vu un dessinateur, alors Cabu dessiner en direct, en plus c'était super sur ses grands formats. Et c'est vrai que je suis rentré un petit peu dans ce monde de bulles à travers le dessin de presse, finalement.
Voilà, et puis quelques années plus tard, quand tu es étudiant, tu retrouves Cabu dans la bande à Charlie Hebdo.
La deuxième version de Charlie Hebdo, hein, qui démarre en 91-92, là, après la grosse Bertha. J'ai la chance d'avoir une copine qui est Colpo, donc qui vend le journal à la criée.
Colpo, ça
ouais,
veut dire...
Je vends le journal à la criée.
Tout à l'heure, il dit Colpo, puis moi je dis, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il faut être branché.
Ça a l'air sérieux, hein.
Elle vend les... D'accord.
Donc, elle vend le journal à Jussieu, voilà, sur le parvis de Jussieu. Et puis très rapidement, elle me dit, mais viens avec moi, accompagne-moi à la rédaction. Et donc, je rencontre tous ces dessinateurs qui vont avoir un succès considérable et malheureusement, qui ne vont pas bien finir, hein, puisqu'en 2015, il y a ce fameux attentat à Charlie avec Tinius, Charb... Cabu, que je retrouve.
Alors, Cabu, c'est un peu le grand frère de tous ces jeunes qui démarrent, tu me disais.
Ouais, ils sont plusieurs. Il y a Volinsky aussi qui est dedans, qui est
un vieux de la
vieille.
Voilà.
Et il y a Ciné, bien sûr, qui est aussi là, qui est
aussi
pareil.
Vieille,
et puis, il y a cette jeune génération qui va démarrer à la deuxième version de Charlie, avec les Luz, les Charb, les Riz. T-News, bien sûr.
Et à l'époque, qui est rédacteur en chef ?
Alors,
on est dans les années 90, hein ?
Ouais,
c'est
80,
ça, hein ?
92, je crois.
T'es étudiant poil aux dents à Paris ?
Voilà, tout à fait.
T'es étudiant en quoi à l'époque ?
Eh bien, je fais des sciences naturelles.
Mais t'es devenu prof de techno ? Bon, d'accord, allez, c'est bon. Bon.
Comme quoi, on peut faire plein de choses.
Voilà,
hein. Et à l'époque, c'est Philippe Val.
C'est Val, hein,
voilà.
C'était bien les éditos de Val, hein, à l'époque.
Ouais.
Mais
ouais.
Il se fritait déjà avec Cavana, hein, je pense.
Ah ouais,
hein.
Non, mais ça a été très compliqué. Hein. L'histoire de Charlie Hebdo reste quand même une histoire assez compliquée.
Ouais, c'est vrai, toujours.
Un peu triste,
des parfois. Des gens entiers, des gens qui restent sur leur position.
Oui, bien sûr, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu après toutes les histoires, quand Ciné est parti de Charlie pour monter Ciné Hebdo et Ciné Mensuel. Mmh. Donc voilà, il y a toute une période qui est quand même très très compliquée.
Bon, écoute, et alors, évoquons ensemble la BD de notre enfance et de notre jeunesse.
Oh bah, c'est toutes les grandes séries hein, qu'on a pu lire, mais moi je suis un... Alors c'est vrai que... Chez mes parents,
il y a de la
bande dessinée classique,
ouais.
Donc les Astérix, les Lucky Luke, les Gaston Lagaffe et compagnie.
Tintin,
il y a Tintin,
y a
bien
Tintin
sûr.
Quand même.
Et puis, il y a les pieds nickelés.
D'accord.
Donc je découvre aussi ces trois personnages qui sont quand même assez irrévérencieux.
Ouais, et puis un dessin crade quand même, les pieds niqués.
Oh non, Pélo, c'est un dessin au contraire qui est dynamique.
Pas, voilà, non, parce qu'ils ont de la barbe et tout.
Oh, ouais, un non, mais ils ont un petit côté arsouille.
Ouais, voilà, c'est,
voilà, c'est un petit côté arsouille. Ribouledingue, Filochard et Croquignol.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et puis il y a Rezer. Voilà, il y a des albums de Rezer et ça vraiment, ça me fout un choc graphique parce que.
Ouais.
Et puis, quand on relit Rezer maintenant, il meurt dans les années 83. Mmh. Quand on relit Rezer maintenant, on se dit mais quel génie visionnaire! Et on retrouve tous les thèmes sociétal là en ce moment qui nous posent problème, que ce soit la pollution, le nucléaire, le droit des femmes. Enfin, Rezer était de tous les combats. Et effectivement, adolescent, quand je découvre le travail de Rezer, c'est un vrai choc.
Tu racontes l'histoire de la BD française à tes élèves à l'IUT de Bobigny.
Oui, j'ai une partie sur le module que j'occupe où effectivement je leur explique un petit peu les grandes phases de l'évolution de ce 9e art, qui est un art relativement jeune hein, puisqu'il démarre à la fin du 19e.
Alors il y a deux choses, parce que quand tu parles de Rezer, quand tu leur racontes Rezer, tu leur parles de société, tu leur parles de discours, en fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Rezer, et qu'est-ce qu'il met en exergue ?
Il y a effectivement, dans l'évolution de la bande dessinée, Harakiri démarre en 1960, hein, mais il y a effectivement, à la fin des années 70, un vent de contestation qui va toucher plein de dessinateurs. Et Rezer en fait partie et explose graphiquement. Il reçoit d'ailleurs un des premiers prix à Angoulême, puisque le festival d'Angoulême se monte en 1974, et il va être dans les premiers primés, donc un talent reconnu. Et c'est assez marrant de voir qu'il n'y a pas tellement de frontières entre ce dessin de presse, mais il fait de la bande dessinée aussi, Rezer. Il y a cette série de successions de dessins qui vont raconter une histoire. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a toute cette génération qui va s'installer avec les périodiques dans les années 70, qui sont l'écho des savanes, qui sont Fluide glacial, Métal hurlant, qui apportent une vraie maturité à la bande dessinée, parce qu'on a longtemps considéré que c'était quand même de la littérature pour jeunesse. Et la censure a d'ailleurs été très dure avec la bande dessinée.
D'accord. On ne voulait pas que les gens s'expriment à travers la bande dessinée, parce que c'est quelque chose de
facilement
lisible.
Mais au lendemain de la guerre, on se rend compte que cette bande dessinée qui était à destination des enfants véhicule plein de choses.
Voilà.
Et donc va se mettre en place
de
cette,
façon
fameuse,
très efficace.
Cette fameuse loi de 49, où elle va être appliquée, puisqu'il y a pas mal d'albums qui ont été censurés. Et ce qui est assez marrant quand on regarde l'histoire de la bande dessinée, c'est que ça va être des albums. Alors, il y a, dans la loi de 49, il y a effectivement ce qui concerne les importations de bandes dessinées étrangères. Et la Belgique, c'est pas la France. Et donc, certains albums d'auteurs belges qui sont maintenant des standards, je pense à Alix, je pense à Black et Mortimer, vont être interdits ou frappés d'une certaine interdiction.
D'accord.
Ah ouais, non, mais c'est surprenant.
Oui. Alors, tu leur parles de l'histoire de la bande dessinée française et belge. Hein,
alors,
à tes
plutôt,
élèves.
C'est vrai que ma spécialité est plutôt la bande dessinée franco-belge.
Voilà, c'est
voilà.
Ça.
Et puis, les jeunes de maintenant lisent des mangas, donc ils connaissent, ils ont cette culture de la bande dessinée asiatique. Et finalement, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas tellement la bande dessinée franco-belge, en dehors des Tintin et Astérix, qui restent des gros blockbusters.
Voilà. Et comment ils la reçoivent alors, cette bande dessinée ?
Bah,
tu les sens indifférents ?
Non,
tu
pas
les
du
sens...
tout, parce que ce soit chez leurs parents ou grands-parents, bah, y a ces séries-là.
D'accord.
Et certains connaissent, ont ouvert les albums, et puis il y en a d'autres qui vont justement aller les découvrir et qui vont s'y intéresser. Ça, c'est une première partie de mon enseignement. La deuxième partie, je
tu
les
fais
travailler. On fait de la pratique et je les fais travailler sur effectivement la composition d'une planche. Parce que c'est ce qui est chouette en bande dessinée, c'est que finalement, on regarde une page et que notre œil a cette lecture linéaire auquel on est habitué, mais il y a aussi une lecture spatiale. Mmh. C'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble de la planche et le dessinateur, et ils sont tous brillants, enfin pas tous, mais il y en a des très grands, vont guider l'œil du lecteur à travers cette page entière. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette double vision.
D'accord. Et toi, tu disais que tu étais plutôt au côté scénario parce que tu étais un piètre
dessinateur.
Je suis
un mauvais dessinateur. Oui. Donc, bon...
Oui, vu ton enseignement, enfin, vu ton parcours, on ne te demande pas d'être un grand dessinateur,
non.
D'ailleurs, ce n'est pas du tout le problème. Alors, tu disais aussi quand même que les grandes figures du dessin animé
du dessin.
De la bande dessinée.
De la bande dessinée, comme par exemple Lucky Luke, ont la chance de perdurer, de renaître de leurs cendres, à travers de nouveaux dessinateurs qui s'approprient le personnage et qui le fait évoluer.
Oui, ça c'est intéressant. Alors il y a toujours eu quand même, si on regarde l'histoire de la bande dessinée, si on voit le personnage de Spirou par exemple, il a été créé par Rob Well, il a été repris par Jigé, et puis après c'est Franquin qui lui donne une autre dimension. Donc il y avait déjà ce passage de dessinateur sur un même personnage.
Mais c'est bizarre d'ailleurs cette tradition.
Non, c'est qu'une évolution du dessin, et on le voit sur plein de séries. Alors pas à l'époque, puisque effectivement c'était simplement un relais, et un dessinateur a... Bon, parce que par exemple, je reprends sur Tanguy la Verdure, c'est Uderzo qui va démarrer, et puis il va avoir tellement de travail avec Astérix qu'il va pas vouloir laisser ces deux personnages qu'il avait créés avec Charlier, et il va passer la main à un autre dessinateur. Donc ça, qu'il y ait une tradition de relais, c'est une chose qui s'est toujours faite dans la bande dessinée. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, à partir d'un personnage emblématique, que ce soit Spirou, que ce soit effectivement Lucky Luke, il peut y avoir des séries parallèles où d'autres dessinateurs avec un autre trait, qui ne ressemble plus au trait d'origine, vont se réapproprier le personnage. Donc ça ouvre un champ plus large, en fin de compte.
Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on achetait les Rahan. D'accord. Et Rahan, il y a deux dessinateurs. Il y en a un que j'adorais, qui était plutôt classique, et l'autre, Lescure, c'est ça ?
Le Cureux.
Le Cureux, le Cureux, qui était...
Enfin, c'est André Chéret au dessin, pardon. C'est André Chéret au dessin, et c'est Roger Le Cureux au scénario.
D'accord. Mais alors, il y a l'autre deux dessinateurs.
Ça me surprend,
si,
ça.
Si, il y a deux dessinateurs différents.
Tu vois, il y a des choses encore que je ne sais pas. Il va falloir que je regarde.
Il y en avait un qui était à la fin, souvent. L'autre qui était au début, qui était très classique. Tarzan était... Rahan était très, très beau et tout. Et c'était compliqué de passer de l'un à l'autre. C'était compliqué. Voilà. Il y a un dessin qu'on préférait à un autre. Si tu devais... Bon, on peut repartir un petit peu sur le parcours du monsieur, qui est assez marrant. Il a fait des chroniques BD, entre autres sur Radio Chalette. C'est comme ça que tu as commencé?
Alors effectivement, c'est quand je suis arrivé à Montargis il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Radio Chalette, à l'époque, m'a proposé de venir faire des chroniques. Enfin, c'était même des émissions d'ailleurs, où l'idée était d'interroger un auteur. Alors de bande dessinée, mais comme j'ai aussi cette volonté d'essayer de mélanger un peu les arts. Il n'y avait pas que des dessinateurs qui intervenaient, il y avait aussi des photographes, parce que quand on regarde l'utilisation des cadrages, la lumière, il y a des points communs avec la bande dessinée. Il y avait des artistes plasticiens aussi, puisqu'il y a eu la bande dessinée inspirée aussi des plasticiens, et vice-versa. Les arts se nourrissent entre eux, donc c'est ça qui est chouette.
Et se retrouvent au musée aussi de temps en temps.
Voilà, tout à fait. Et donc ça a démarré comme ça, effectivement, ouais.
D'accord. Après, le monsieur...
Donc, j'ai eu Edika, j'ai eu...
T'as eu Edika ?
Oui, on en parlait tout à l'heure, voilà, ce cher Edika. J'ai eu Philippe Lugy, Michel Janvier, Franck Marjorin.
Bon, après, il y en a plein, tu peux dire leur nom, je suis paumée, quoi. Le monsieur, il a été ensuite président de la même radio, mais qui change de nom, qui s'appelle C2L. Il est président de C2L au moment du label Trump, c'est ça, création du label Trump.
Enfin, le label Trump a été créé déjà un petit peu avant.
Bon, d'accord.
Par l'actuel président.
Ensuite, il se retrouve à la télé. Voilà, il fait des émissions de télé sur la BD pendant 3 ans. Et puis après, il va créer le festival de BD de Meaux.
Non, ça, c'était avant.
C'était avant.
Oh là là, c'était avant. Oh là, c'était dans les années 2000, ça.
Mais oui, mais voilà, c'est ça. Je vous le disais, on a affaire à un vieux monsieur quand même. Et il va même monter une galerie d'art en Vendée. C'est ça.
Ouais.
Et là encore, tu vas, donc, galerie d'art BD.
Alors, BD et photo. Il y avait encore cette volonté de double entrée.
Planche de BD.
Ah, planche originale.
Planche originale. Tu t'es fait un max de pognon.
Oh bah voyons. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on a vu apparaître dans la bande dessinée.
Pourquoi t'as eu envie de faire ça?
Bah parce que j'adore le dessin.
Voilà, d'accord, voilà. D'accord.
Et il n'y a rien de plus beau qu'une planche originale.
Voilà, d'accord.
Alors, il y a 15 ans, puisque c'était il y a plus d'une quinzaine d'années, les gens n'étaient pas forcément habitués à accrocher une planche au mur.
Oui.
Et
effectivement, beau dessin,
c'est assez particulier. Une illustration,
Corto
c'est
Maltese,
facile.
Oui.
Mais avoir une planche, c'est vraiment un élément de l'album. Et puis, on voit maintenant ce qui est devenu la bande dessinée, les planches originales, sur le marché de l'art.
D'accord. Alors, justement...
Si tu veux acheter un petit RG...
Non.
3,4 millions pour toi.
Arrête.
C'est facile.
Bon, alors voilà, parlons justement de cette évolution de la BD. Moi, je te demandais tout à l'heure si tu t'y retrouvais là-dedans, parce qu'il y a une sorte d'accélération ou pas ?
Alors ouais, il y a une surproduction actuellement.
Voilà,
et
c'est
effectivement,
ça. Tu vois, une surproduction.
C'est un petit peu le souci pour les auteurs et autrices actuellement, c'est que cette surproduction fait que la plupart des auteurs et autrices vivent des fois dans des situations de pauvreté, on pourrait dire comme
voilà,
ça.
Voilà, avec le problème du statut de l'artiste.
Ah, c'est très, très compliqué. Donc, il y a beaucoup de revendications.
De l'auteur, je ne sais pas trop justement où ils en sont.
Bah, ça évolue doucement, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué pour un jeune dessinateur. Alors, bien sûr, il y a des séries qui marchent d'enfer. On voit le dernier Astérix, 1 million d'exemplaires.
Mais après,
c'est considérable. Ouais. Mais un jeune qui va démarrer, les tirages ne sont pas très importants. Et puis, ça reste très, très compliqué parce qu'avec cette surproduction, les albums ne restent pas forcément très longtemps visible pour le public. Donc très rapidement, ils sont relayés, relayés. Donc ça, c'est un vrai souci pour que le 9e art continue à exister. Et sans auteur ou autrice, eh ben, il n'y a plus de bande dessinée.
Bon, alors il y a plein de... C'est quoi les grands mouvements esthétiques à l'heure actuelle ?
Grands mouvements esthétiques, il y a quelque chose qui est sorti il y a déjà quelques années, hein, mais qui cartonne, qui est le roman graphique, là.
Oui,
alors
voilà.
Le roman graphique ça reste de la bande dessinée, seulement ça a dépassé ce qu'on appelait l'album traditionnel avec ses 48 planches imposées, etc. Mmh. Là, ça laisse aux artistes d'abord plus de liberté, puisque la pagination n'est plus imposée, donc on peut avoir des albums de 150, 200 pages, etc. Et puis, il y a une revendication, il y a un mouvement qui s'est installé sur de la bande dessinée d'auteur ou d'autrice. C'est-à-dire avec des considérations sociales, politiques,
très
historiques,
plus
idéologiques,
plus ouais.
Peut-être plus littéraires, je ne sais pas, parce que ouais. Des fois dans la bande dessinée traditionnelle, c'était littéraire. Ouvre un Black et Mortimer, tu verras, il y en a du texte. Hein.
J'ouvre un Black et Mortimer pour lui faire plaisir.
Ou Corto, si tu lis Corto, effectivement c'est littéraire aussi. Ouais. Mais il y a cette liberté qui leur permet d'exprimer un petit peu plus de choses.
Peut-être, oui, mais tu vois, un travail, je pense au roman dont tu parles, le roman avec en dessin, c'est graphiquement très très simple.
Non, il y a tous les styles. C'est l'avantage aussi de la bande dessinée, c'est que tu peux trouver tous les styles, du style humoristique avec les gros nez qu'on retrouve chez Marjorin ou chez Sestac, à des styles plus directs et plus vifs dans le trait. Et puis, c'est tous les genres aussi. C'est-à-dire que tu peux trouver du western, du polar, de la bande dessinée érotique, qui fonctionne aussi très bien, de la bande dessinée historique, du docu-fiction. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts.
Voilà, mais est-ce que du coup... C'est chouette, mais est-ce que du coup, t'es pas un peu perdu ?
Que ah bah après, en tant que lecteur, par rapport à d'abord,
et puis en tant que spécialiste, parce qu'il faut que tu
faut lire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut lire beaucoup de choses.
Le prof, vraiment, il nous sort des vieux trucs, Charlie Hebdo, des machin.
Non, c'est vrai qu'il faut se mettre au goût du jour et il faut lire. Et c'est vrai que la production est telle qu'il faut en lire.
Il faut en avaler.
Alors, c'est un petit truc que j'ai lancé d'ailleurs depuis quelques. Ça fait plusieurs mois maintenant, ça fait un an et demi. Je vais voir aussi mes potes libraires pour qu'ils me donnent des conseils. Donc ça, c'est une petite émission, une petite pastille web qui passe tous les jeudis sur une chaîne YouTube que j'ai montée qui s'appelle Très pour Très BD, où les libraires me donnent leurs trois coups de cœur de la semaine. Et je me balade un peu partout en France.
Ah oui, c'est bien. Alors, il faudra noter ça à M. Weber en dessous. Trois, Très pour Très.
Un, deux, trois BD chez les libraires,
un, deux,
ça s'appelle.
Un, deux, trois BD chez les libraires. Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Moi, j'ai posé à peu près...
Donc, il y a des choses que j'ai pas forcément lues. Et les libraires m'en parlent et ça me donne envie aussi de découvrir.
D'accord, très bien. Alors, si tu devais me garder un classique sur une île déserte ?
Bah, je prendrais du Pratt.
Tu prends du Pratt ?
Oh, bah oui.
Ouais. Et puis, un moderne ? C'est dur de dire, allez, un moderne, c'est dur, moderne.
Ouais, c'est un peu dur, un moderne, mais il y a plein d'auteurs, là, ou d'autrices. C'est vrai qu'on parlait de Catel tout à l'heure, je trouve que ces monographies de femmes inspirantes, elles sont magnifiques.
Tu parles beaucoup d'autrices, c'était un milieu plutôt masculin jusqu'à présent ?
Ah, ça a été pendant longtemps, effectivement, un milieu plutôt masculin. Même si dans les années 70, il y a des tas d'autrices, et on parle des Bretéchers, hein, puisqu'elles font de l'écho des savanes avec Gottlieb et Mandrika, donc là on est en 72 ou 73, Chantal Montelier, qui est une grande autrice aussi. Il y en a à l'époque. Mais maintenant, elles sont un peu plus visibles. Ouais. On commence à les reconnaître. Et beaucoup de femmes étaient des coloristes. Métier qui n'était pas tellement reconnu. On sait que le métier de scénariste, c'est pareil. Ça a mis un certain temps avant que Goscinny en parle, d'ailleurs, en disant « Les premiers Lucky Luke, mon nom n'est pas cité dessus. »
Ah oui.
Ce n'est qu'après, grâce à effectivement son boulot aussi, où il a défendu le métier de scénariste, qu'on a maintenant une vraie reconnaissance des scénaristes. Il y a encore un travail à faire sur les coloristes. Et ça a été bien souvent les femmes. Donc il y a une émergence d'une bande dessinée de création féminine extraordinaire. Il y a d'ailleurs un prix qui s'appelle le prix Artemisia, puisqu'on a rencontré Patrick Gomer mercredi dernier. Et Patrick, on a fait partie du jury d'Artemisia qui récompense cette bande dessinée de création féminine. Un peu comme le prix féminin en littérature.
En tout cas, t'as choisi un créneau plein d'avenir.
Ouais, j'espère bien.
Ça, c'est du bon business pour Christophe Villa. Alors, si vous voulez le retrouver, si vous voulez discuter comme ça, si vous êtes un spécialiste, si vous êtes complètement béotien comme moi, eh bien, vous allez le 20 novembre à Blois, au festival BD Boom. Et puis voilà, il prendra un petit temps.
Un des plus grands festivals de BD.
Ah, c'est un des plus grands festivals.
Ah ouais, il y a Angoulême, il y a Saint-Malo, et puis Blois reste une institution.
Super, super. Et donc, comme lui, c'est une institution, il est là-bas.
Ah bah oui.
Merci Christophe.
Merci Sandrine.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des wittés, cric-crac, des bandes, des frappes, des
archibans, pow, blop.
Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait
blam,
ça fait
splash,
et ça fait
ch'tac,
oh bien,
boum,
oh, parfois non.
Shibam, pow, blop, wheeze.
Viens petite fille dans mon comic strip,
viens faire des bulles, viens faire des whips, des cric-crac,
des bandes, des flaps et des zips.
Shibam, pow, blop, wheeze.
Viens avec moi par-dessus les bulles.
Ça fait wing
quand on s'envole et puis gling. Après quoi je fais titi, ça fait bouing.
Shibam,
blop,
wouz. Protéger,
schlac.
Ferme les yeux, embrasse-moi.
Quand on est en situation de handicap, on a beau être deux fois plus talentueux, deux fois plus investi, motivé, appliqué, dynamique, doué, indépendant, capable, on a toujours deux fois plus de risques d'être au chômage que la moyenne des Français. Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Avec l'ADAPT, faisons avancer l'emploi des personnes en situation de handicap. Plus d'infos sur semaine-emploi-handicap.com. Source INSEE, enquête emploi 2019 et 2020.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter à la radio sur ces deux ailes et merci de nous regarder en vidéo sur les réseaux, notamment sur notre page Facebook Entre Loire et Loin, où vous retrouvez toutes nos interviews, nos reportages en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne rien rater. Commentez, likez, partagez, sortez. Hein, sortez de chez vous. Le cinéma, aller par exemple faire un tour au cinéma Le Vox ce soir à Châteaurenard où à 20h30 vous pourrez voir Freda, un film qui parle d'Haïti, et vous y rencontrerez Karine Holnett, la chef opératrice du film notamment, ainsi que l'association Hercule Haïti, une association humanitaire qui essaye de faire des choses là-bas, et son créateur Jeff nous en parle justement.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons dans le hall de cette très belle médiathèque de l'âme à Montargis, avec Entre Loire et Loin. Tout à fait par hasard, passait à proximité notre ami Jeff Poitevin. Jeff Poitevin fait partie de l'association Hercule Haïti, c'est ça, j'ai mis dans le bon sens, Hercule Haïti. Jeff, bonjour.
Bonjour.
Tu es le président de la SAS, je ne sais plus.
Oui, je suis le président de la SAS, oui.
Tu es le fondateur ?
Je fais partie des fondateurs, oui.
Alors, donc, tu, en fait, l'association Hercule Haïti, elle est basée à Château-Renard, mais évidemment, elle rayonne sur le Montargois, sur la région. Elle s'occupe, on s'en doute un petit peu, vu le nom, elle s'occupe de monter des actions pour Haïti. Alors, d'où vient l'idée ? Quand est-ce que ça s'est créé, cette histoire ? Alors,
c'est un peu bizarre. C'est l'histoire du mec qui rencontre un autre, etc. Ça a commencé en 2000 par une amie qui habite, qui avait une maison à Saint-Martin, dans les Antilles, et qui employait un Haïtien. C'était un peu une exception, cette amie, parce qu'elle, le Haïtien, elle le payait, mais aux normes métropolitaines. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les Antilles françaises. Mais bon, et un jour, on avait un peu lié connaissance avec ce gars, il nous dit, mais faudrait que vous veniez visiter notre pays, mon pays. Ouais, moi, Haïti, on ne connaissait pas du tout. Et on a été là-bas, on s'est dit, et ça fait quand même un choc quand on descend à l'aéroport, surtout c'était en 2000 à peu près. On arrive vraiment ailleurs. Et quand on voit ce pays, on se dit un truc, mais c'est pas possible que ce pays soit pauvre. C'est simple parce qu'il y a à peu près tout. Il y a de l'eau, il y a du soleil, les terres donnent, etc. On ne voit pas pourquoi. Ça ne ferait pas forcément des très riches. Mais ce n'est pas le Qatar, hein, il n'y a pas de pétrole là-bas. Mais c'est un pays où les gens normalement devraient pouvoir vivre correctement sans problème. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas le cas.
Alors voilà, cette problématique, elle va être, on va en parler au cinéma Vox de Château-Renard le 13 novembre prochain. C'est pour ça que c'était très bien de rencontrer Jeff, parce qu'il y a une vraie actualité. Au cinéma Vox, à peu près tous les ans, Hercule Haïti a la possibilité de s'exprimer, évidemment de sensibiliser, on l'espère, de nouveaux publics. Là, ça sera autour d'un film qui vient de sortir, qui est sorti il y a un mois, qui s'appelle Freda. Freda, c'est un film de Jessica Généus, c'est un documentaire, c'est un portrait de groupe de femmes haïtiennes. C'est ça. Et puis alors, on va voir la chef opératrice qui va venir.
Voilà, oui. Alors, ce qui est d'abord très très intéressant dans ce film, c'est qu'il a été tourné par une Haïtienne en Haïti et à Port-au-Prince, et en plus, l'an dernier, je crois en février ou janvier 2020. Peut-être les deux, d'ailleurs. Quand on connaît Port-au-Prince... c'est pas dans les quartiers riches, le quartier riche de Port-au-Prince où ce film a été tourné, il a vraiment été tourné dans les zones, on va dire, populaires de Port-au-Prince. Quand on connaît Port-au-Prince, faire un film là-bas, ça paraît presque, d'abord c'est extrêmement dangereux parce que une situation d'insécurité très très grave, il y a des enlèvements, des assassinats tous les jours. Faut mieux pas trop sortir la nuit, même de jour c'est risqué de toute façon. Voilà. Donc arriver à faire un film là-haut, c'est quand même un peu les coulisses de l'exploit, et en plus, d'après ce qui a été dit au Festival de Cannes, un très bon film.
Alors vous n'êtes pas Hercule en Haïti, Hercule Haïti, vous n'êtes pas dans l'abstrait, vous êtes dans l'action, et vous avez déjà réalisé pas mal de choses très intéressantes.
Voilà. Alors, nous, on allait... ça, c'est ce que je vous ai dit, qu'on avait découvert à Haïti en 2000, 2001, etc. Et on y retournait pratiquement tous les ans avec ma compagne et puis un couple d'amis. On y allait, on avait pris à connaître des gens dans le sud d'Haïti, dans le coin où il y a eu le tremblement de terre il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et on participait, on aidait un peu à la scolarisation d'enfants, mais à titre individuel. Jusqu'à 2010, où il y a eu ce gros tremblement de terre sur Port-au-Prince. Et les communes aux alentours de Port-au-Prince, alors c'est quand même des millions d'habitants au-dessus, il y a eu, on ne sait pas trop, 200, 300 000 morts, enfin quelque chose comme ça, plus des tentations de déplacés, voilà, vraiment une catastrophe énorme. Le palais présidentiel s'est effondré, la cathédrale de Port-au-Prince s'est effondrée, enfin, etc. Il n'y a plus grand-chose dans les structures qui est debout. Un des drames, d'ailleurs, c'est que ça s'est passé en fin d'après-midi, juste avant le soleil, juste avant la tombée de la nuit. Et bien évidemment, les structures officielles, que ce soit la haute administration ou les directions d'entreprise, tout ça, les gens étaient au boulot et ils ont pris les bâtiments sur la tête. Il y a eu de nombreux morts dans ce qui était l'élite haïtienne. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement la catastrophe humaine de gens qui se font tuer, mais il y a aussi une énorme perte au niveau des compétences, des techniques, etc. Tout ça, c'est énorme. Déjà qu'il y avait une tendance à l'immigration en raison de la pauvreté. Si on rajoute ça par-dessus, ça a été une catastrophe pas possible. Ça, c'était en 2010. Nous, on n'est pas retourné tout de suite en Haïti. On n'y est retourné que l'année d'après. On a beaucoup entendu parler de milliards qui allaient être donnés par les grands pays, que ce soit les États-Unis, la France, l'Europe, etc. L'Allemagne, enfin, on peut citer un peu beaucoup de pays. On a des dizaines de milliards. C'est à l'échelle d'un pays comme ça, c'est beaucoup. Quand on a été en Haïti 2 ans après, on s'est dit, mais où sont passés ces milliards? En fait, d'après l'ONU, sur les dizaines de milliards en question, il n'y aurait que 10% qui seraient arrivés en Haïti. Et dans ces 10%, il y en a une bonne partie qui est partie en fumée parce que corruption, etc. Voilà. Donc il n'y a pas eu grand-chose de fait, en fait, en réalité, après ça. On a été voir dans le plateau central, dans le centre d'Haïti, où on connaissait des gens vraiment dans les campagnes. Et on a pris contact avec une association, un mouvement paysan qui s'appelle le mouvement paysan Papaye. Papaye, c'est en Haïti, c'est à la fois un fruit et une ville. Voilà. Et on a pris contact avec eux, on a vu ce qu'ils faisaient. Ils ont accueilli des gens qui étaient des réfugiés, qui étaient partis de Port-au-Prince suite au département. C'était des gens qui n'étaient pas du tout des agriculteurs. Ils ont installé en petite agriculture, en agroécologie, etc. Parce que agroécologie, c'est pas que pour des bonnes raisons comme chez nous, c'est aussi parce que c'est la seule façon rentable. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des engrais, des intrants comme chez nous. Donc c'est la seule façon de faire. Donc la permaculture, c'est quelque chose. Et en plus, avec l'aide des paysans qui, eux, étaient déjà installés, qui ont un savoir-faire, on n'a pas besoin d'envoyer des agronomes là-bas. Ils en ont. Ce qu'il leur faut, c'est avoir les moyens pour partir et de débuter le minimum pour pouvoir cultiver, pour pouvoir se nourrir. Et c'est ces moyens-là que nous, on a commencé à initier. Alors, ça a été... on est arrivé un peu avec nos idées d'Européens. On s'est dit, c'est bien gentil. Cultiver, mais quand il fait 35 degrés à l'ombre, comme outil en tout et pour tout, on a une houe. Une grosse binette, quoi, autrement dit. À la main, c'est quand même un peu dur. Ça serait bien d'avoir... Non, ils veulent pas d'un tracteur. Un tracteur, d'abord, parce qu'il faut mettre de l'essence dedans. Et puis, en plus, si jamais il y a un pneu qui est crevé, ça coûte une fortune, et puis, etc., etc. Non, des bœufs. Donc, ça a été des bœufs avec une charrue, fabriquée localement, la charrue. C'est du simple, hein. Ça leur a permis d'agrandir leur surface de culture. Alors, c'est pas des grands... Un paysan riche, là-bas, il a un hectare, hein. C'est pas... Et une brouette, éventuellement. C'est quand même déjà le gros riche, celui-là. Et donc, ça leur a permis d'agrandir leur surface, donc d'arriver à une autosuffisance alimentaire. Alors, ça s'est passé sur un peu de temps. Et d'avoir un petit peu plus que ce qu'ils avaient besoin pour, eux, se nourrir. Donc, de pouvoir aller vendre sur les marchés aux environs d'où ils étaient. Et de tirer un petit bénéfice. Ce petit bénéfice sert, d'un autre côté, permet de scolariser les enfants, parce que l'école est payante en Haïti, il n'y a rien de gratuit, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas tout ça. Hein. Donc de scolariser les enfants, et petit à petit d'arriver à monter le niveau de vie, et disons, quand on scolarise les enfants, quand on permet aux gens de savoir lire et écrire, c'est aussi quelque part, ça permet aussi la citoyenneté, Parce que c'est bien gentil d'organiser l'élection, mais avec dans un pays où il y a 70% des lettrés, ça ne tient pas vraiment debout. Voilà, c'est toute cette démarche-là que c'est la philosophie de la chose. Alors, comme il y avait un petit surplus, c'est bien joli, mais le marché, c'est à 10 km. Alors, 10 km à pied, c'est pareil, ça fait quand même un peu loin quand il faut transporter des sacs de maïs ou des choses, ou des kilos de tomates, de poivrons, de choses comme ça, des choux, tout ce qui peut se cultiver là-haut, ça pousse très bien. Et donc, on a acheté une motobène, c'est un machin à trois roues, c'est fabriqué en Chine, mais bon, il n'y a pas tellement le choix. Mais voilà. Et pour pouvoir aller au marché, et après, il y a eu l'étape suivante, c'était de faire récupérer, on l'a récupéré en France, c'était une grosse expédition, un moulin, c'est deux pierres, c'est pas un moulin qui est pas un bâtiment, hein, c'est juste une machine. Qui permet de moudre le maïs, et ça fait, ils appellent ça maïs moulu, et ça fait, comme je vous dirais, un peu de couscous, mais à base de maïs. Voilà, et c'est un des aliments de base. Bon, tout ça, ça se vend, donc une petite valeur ajoutée sur le produit agricole. Voilà, ça, c'était le modèle de départ. Alors ça, c'était avec une soixantaine de paysans, à peu près, que ça s'est développé, ça.
Excuse-moi, c'était de quelles années à quelles années ? Donc on voit, il y a deux pôles avec Hercule Haïti, il y a l'agriculture, aider les paysans, et puis également intervenir au niveau de l'éducation. Il y a eu l'aide à la construction, rénovation du moins d'une médiathèque. Oui. Il y a eu évidemment des livres, des jeux pour enfants, il y a eu aussi des vêtements. Bon, ça c'est des actions un peu classiques qu'on peut voir ailleurs dans d'autres associations. Il y a eu de l'ordinateur également. Quoi d'autre ?
Alors, c'est ce que tu disais là, c'est une logique. Si on parle d'autosuffisance alimentaire, si on parle d'éducation, derrière on parle de culture quand même aussi. Or, on parlait de cinéma là tout à l'heure, il faut savoir qu'il y avait un cinéma à Port-au-Prince, et encore je crois qu'il est fermé. Hein. Donc, mais il y a d'excellents cinéastes haïtiens, hein. C'est pas le problème, mais c'est que les Haïtiens ne connaissent plus leur culture. Et il y en a une, que ce soit picturale, que ce soit une culture que tout le monde connaît, plus ou moins des auteurs haïtiens, ou quelque chose, Tronc-Étienne par exemple, ou quelque chose comme ça, qui en général d'ailleurs sont installés au Canada ou un truc comme ça, au Québec, parce qu'ils parlent français au Québec, comme en Haïti. En Haïti, on parle français et créole. Ou créole et français, ça dépend comment on voit les choses. Voilà, donc tout ça, c'est une logique pour arriver à avoir un pays qui se sorte de ça.
Quels sont les projets à venir ?
Alors les projets, ils sont en cours. C'est-à-dire que ce premier modèle qu'on a fait avec une soixantaine de paysans, et comme ça fonctionne, en fait, quand on leur donne les moyens, ils y arrivent très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, maintenant, on le fait de l'autre côté, à 10 km, mais dans l'autre sens, de Hinche, qui est le chef-lieu du département du centre. Mais là, avec beaucoup plus, puisque là, pour l'instant, ils sont un peu... aux dernières nouvelles, ils étaient 250 environ, paysans, sur un lieu qui s'appelle Marmont. Et c'est une section communale, mais où il y a 24 000 habitants. C'est déjà beaucoup plus... Bon, on ne va pas faire avec 24 000 habitants, nous. Mais le but, c'est avec ces 200 paysans qui se sont montés en... qui ont monté une coopérative, voilà, on peut dire ça comme ça, une coopérative. Et petit à petit, c'est que le modèle... qui avait été fait, c'est-à-dire d'amener des bœufs. Alors là, c'est plus un couple, là, on est en deuxième couple de bœufs. Il y a aussi la motobène, là, on est en train de construire... ils sont en train de construire une réserve, une citerne à eau. On a fourni deux pompes pour pouvoir... parce qu'il y a de l'eau en Haïti, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Et pour pouvoir arroser dans leur culture, parce qu'ils n'ont pas les moyens. D'accord. Quand il faut porter les bidons sur 5 ou 6 kilomètres... Voilà.
Bon, je t'arrête, Jeff. Ce que vous comprenez en écoutant Jeff, c'est qu'on n'a pas affaire à des gens qui partent avec une sorte d'idée romantique, en fait, d'aider un pays. C'est vraiment des gens qui connaissent très très bien le terrain,
qui vont là-bas, qui rencontrent des individus, qui ont des projets aussi d'ambition moyenne et très concrète. Alors vous pourrez encore une fois parler avec eux, Yvette. Volet, j'espère que ton amoureux, il a bien parlé et que moi, je lui ai bien donné la parole. Tu nous diras ça le 13 novembre au Vox. C'est à 20h30 ou 20h, je ne sais plus.
20h30.
Voilà, à 20h30.
Suivi d'un débat avec la...
Ah, puis alors, attendez, c'est incroyable. On a le nouveau curé de la paroisse de Château-Renard-Courtenay qui s'appelle Ernst Julien, qui est haïtien.
Oui, il est... Et d'un coin en plus qu'on connaît, du sud, du côté des Cayes, je crois.
Alors voilà, donc il va vraiment lui aussi pouvoir nous parler d'Haïti, évidemment. Donc ça nous promet un débat très riche, des rencontres très riches. Voilà, intéressez-vous à Hercule Haïti dans notre secteur, c'est vraiment quelque chose de...
Nous étions entre Loire et Loin, merci de nous avoir écoutés, merci à tous nos invités dont je vous rappelle que vous pouvez les retrouver en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin avec plein de liens et des infos. Pour en savoir plus, soyez curieux, sortez de chez vous, vivez. Merci à toute l'équipe, Sandrine Manteau, Anita, Patrice, c'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. À samedi prochain, 10h sur C2L. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Tiens, un velours.
C2L Radio.